Chers amis auditeurs d'Opéra Gora, bonsoir. Nous continuons ce soir le cycle Verdi. Le mois passé, nous évoquions la célébrissime Traviata. Et ce soir, nous évoquerons un opéra de la même époque verdienne, les années 1850. Le Trouvère, ou Il Trovatore, comme l'on dit en Italie. Ma chère Nancy est aux commandes pour mettre en onde cette émission et nous vous souhaitons de passer une bonne soirée en notre compagnie et surtout en compagnie de ce magnifique opéra qui a été pendant des décennies numéro 1 au box-office de l'opéra. Il est toujours très joué partout dans le monde, mais il est de plus en plus difficile de trouver un très grand ténor pour assurer le rôle du Trouvère. Il est vrai que les illustres aînés comme Franco Corelli ou Luciano Pavarotti n'ont peut-être pas d'équivalent de nos jours. Il faut dire aussi que les ténors se sont compliqués la tâche, qui était déjà pas facile, en rajoutant des aigus extrêmes, tous ces fameux contre-huttes chantés en pleine force de voix de poitrine et qui n'existent pas dans la partition de Verdi. Mais la tradition est solide en matière d'opéra et il ne saurait être aujourd'hui question de les supprimer, tous ces aigus rajoutés. Le ténor risquerait une bronca, voire davantage dans certains théâtres au public bouillant et connaisseur. Le Trouvère a été inspiré à Verdi par le drame d'Antonio Gutiérrez, le célèbre écrivain espagnol. Et c'est le fidèle Camarano qui en a fait le livret, comme souvent avec les opéras de Verdi. L'histoire est rocambolesque à souhait, mais efficace. Et il faut la connaître bien pour comprendre ce qui se passe sur scène. Heureusement, la musique est là pour porter très haut la qualité de ce chef-d'œuvre et les airs magnifiques se succèdent, ainsi que les chœurs nombreux et très réussis. Cela suffit souvent à régaler le public venu surtout pour admirer le chant et les voix. Le drame se situe au XVe siècle, époque des trouvères et des troubadours. En l'occurrence, ce fameux trouvère devrait plutôt s'appeler le troubadour, puisque l'action se situe bien au sud, en Gascogne et en Aragon, en Espagne. Mais qu'importe, l'essentiel, c'est qu'il nous charme, ce trouvère. L'aristocratie locale du comte di Luna est confrontée à des révoltes populaires incitées par la communauté des bohémiens qui ont envahi la région. Ce comte di Luna, vieillissant maintenant, a deux fils. L'un, jeune homme, adulte, dira-t-on. Et l'autre, encore au berceau. Un soir, l'on aperçoit une vieille gitane au chevet du bébé qui rapidement tombe malade, probablement à cause, pense-t-on, du mauvais sort jeté par la sorcière. On attrape la vieille gitane et on la conduit droit au bûcher. Cette sorcière a une fille, Azucen, elle-même un peu sorcière sur les bords. C'est la mezzo-soprano à l'opéra. En mourant, la vieille gitane implore à sa fille de la venger. Et c'est là toute l'intrigue de ce drame. Azucen a elle-même un bébé qui ne la quitte jamais. Et elle réussira à kidnapper le jeune fils du comte, celui qui est au berceau, pour le jeter dans le bûcher encore ardent où sa mère se consume, pour se venger, bien entendu. Mais, arrivée au pied du bûcher, elle se met à délirer et sentant la foule qui arrive, qui vient la menacer, dans un mouvement précipité, elle se trompe de bébé et c'est son propre fils qu'elle jette dans les flammes. Est-ce que vous me suivez ? C'est vraiment rocambolesque. Dès lors, sa vengeance promise à sa mère prendra une autre forme. Elle va élever, comme son propre fils qu'elle vient de jeter aux flammes, eh bien, elle va élever le fils du comte et son but sera que ce gamin, un jour devenu adulte lui aussi, assassine son grand frère aîné. Vous voyez la complexité de l'intrigue qui semble issue d'un roman d'Agatha Christie. Le fils adoptif deviendra le trouvère, le ténor à l'opéra. Et il trouvera son frère aîné, il le provoquera en duel avec succès. Son frère aîné, c'est le baryton à l'opéra, le jeune comte d'Ilun. Mais au moment de l'achever, une voix céleste lui dira « Ne le tue pas !» Et il obéit, sans savoir, bien sûr, que son rival est son frère aîné, obéissant à cette voix divine tombée des cieux. Pour compliquer le tout, le trouvère et son frère aîné sont tous deux amoureux de la belle Léonore, la soprano à l'opéra. Elle n'aime que le trouvère. Et le sachant bientôt prisonnier, elle feindra d'aimer le grand frère, le jeune comte d'Ilun, puisque l'ancien est trépassé maintenant. Et puis, pour ne pas lui céder, elle s'empoisonnera. Le trouvère, prisonnier par les sbires du jeune comte, est conduit à l'échafaud. Et son frère aîné le fera décapiter. Et à ce moment, Azucen s'écriera « Je suis vengé, tu viens de tuer ton propre frère et tu vis avec la malédiction divine. » Ouf ! Écoutons un peu de musique. Écoutons la superbe basse Thomas Thomason nous raconter l'histoire de la vieille sorcière qui jette un mauvais sort au fils cadet du comte. Écoutons le capitaine de la garde du comte. Alerta! ce qui signifie « debout », « alerte », « alerte ». Écoutons Thomas Thomasson.
Attender vigilando, ed egli talor presso i veroni della sua camera, intere passa le notti.
Giussi,
ricco e teme.
Alle gravi paverre di salva di scacciar, la vera storia cina la diversia, germano la storia.
La dirò, venite intorno a me,
romantique et astuce de Verdi pour nous présenter toute l'intrigue en un seul air. Puis apparaissent la belle Léonore et Inès, sa dame de compagnie, une mezzo. Léonore écoute le soir un mystérieux trouvère qui chante accompagné par son luth, sans jamais se montrer et se faire connaître. On sait seulement que c'est un bohémien que le jeune comte d'Iloun pourchasse, pour plusieurs raisons. D'abord parce que les bohémiens errants sont les ennemis de toute aristocratie, et surtout, surtout parce qu'il sait que Léonore, dont lui-même est amoureux transi, eh bien, Léonore est très intéressée par cet aventurier du clair de lune, au charme qui fait rougir de rage le nouveau comte. La jalousie l'emporte. Il veut absolument éliminer ce rival. Justement, Léonore se confie ce soir à son amie Inès, sa confidente. Elle est secrètement amoureuse de ce trouvère, car un soir où il chantait dans le lointain, elle a écouté attentivement les paroles de la mélodie et elle a compris qu'il prononçait avec amour le nom de Léonore, son propre nom. Et que donc, ce mystérieux trouvère était réciproquement amoureux de la belle Léonore. Inès, la prudente, la déconseille. « Attention, tu te risques en terrain dangereux. Le comte est furieux après ce bohémien. Et s'il surprenait votre amour, il ferait vite abattre l'intrus devenu un rival potentiel. » Mais Léonore n'écoute que son cœur. Rien n'entravera son élan amoureux. Elle ira même à la rencontre de son destin. Elle nous le dit avec délice, dans un air merveilleux en deux parties, comme c'est souvent le cas avec l'opéra romantique du XIXe siècle. Une partie lente et très mélodique, avec des accents lyriques répétés jusqu'au paroxysme. Et puis, une partie rapide et rythmée, mettant en lumière la virtuosité de la soprano. Écoutons cet extrait. Taccea la notte, c'est-à-dire la nuit était silencieuse. Écoutons Sondra Radvanovsky, Taccea la notte.
Oh,
l'un des plus beaux airs du répertoire de soprano. Il faut admirer, bien sûr, la ligne du chant mélodique de la chanteuse, mais également l'orchestration très raffinée, très réussie de Verdi, tout en mystère et poésie pour la partie lente, et tout en légèreté et rythme pour la partie rapide. Ce premier acte se termine par la confrontation des deux rivaux qui se sont enfin rencontrés, le Trouvère et le jeune comte d'Illoun, c'est-à-dire les deux frères qui ne savent pas qu'ils sont frères. Avec, de surcroît, l'intervention de Leonora qui veut les séparer. Rideau. Le deuxième acte débute par le célèbre chœur des Enclumes. Que viennent faire là des Enclumes ? Eh bien, les gitans sont réunis le soir autour du feu de camp et battent la mesure en frappant sur des enclumes avec des marteaux, enclumes dont ils fabriquent les armes blanches et les outils indispensables. C'est évidemment l'un des chœurs d'opéra que tout le monde attend, tant il est à la fois original et populaire dans sa grande simplicité. Walt Disney ne s'y est pas trompé et l'a magistralement exhibé dans son Fantasia. Et que dit ce chœur magnifique ? Eh bien, il dit « Qui donc embellit les jours du gitan ?» Et les filles répondent « C'est la Zingarella », c'est-à-dire la belle gitane. Ambiance de fête, bonne humeur, vivacité, rythme, quelques répliques du chœur masculin et les réponses joyeuses du chœur féminin, puis union du chœur mixte et des marteaux qui battent le rythme sur les enclumes. Écoutons l'opéra de Vienne, écoutons ce chœur des bohémiens. Avoir, nous aussi, envie de chanter, à l'unisson avec Verdi, ces magnifiques ensembles vocaux qui continuent de faire le tour du monde et dont on ne se lasse pas. Aussi bien le profane en matière d'opéra que le spécialiste. C'est le secret des chefs-d'œuvre impérissables qui, comme je vous le répète souvent, sont utilisés de nos jours à la télé pour la pub du fromage ou d'une voiture à la mode. Mais enfin, c'est une musique tellement porteuse que tout le monde la reconnaît et l'apprécie. Après ce moment d'allégresse, nous retournons sans transition dans le drame. Azucena, la mezzo-soprano, en proie à des hallucinations, revoit inlassablement le supplice de sa mère, la vieille sorcière condamnée au bûcher, et ses cris de douleur et de vengeance. Elle hurle tout le temps, obsédée, « Mi vendica, mi vendica, mi vendica, venge-moi, venge-moi, venge-moi » qu'elle dit en mourant sur le bûcher à l'instance de sa fille. Elle chante désespérément la scène du bûcher en revivant toutes les sensations terrifiantes de la mise à mort de sa mère. La foule qui hurle, les flammes qui crépitent, la fumée âcre qui se répand, le délire qui s'empare d'elle. Et n'oublions pas que c'est dans ce bûcher qu'elle précipita par erreur son propre enfant à la place de celui du comte, qu'elle a enlevé, qu'elle a élevé dans la haine de son propre frère aîné, en espérant que les deux frères s'entretuent et que sa vengeance ainsi s'accomplisse, ainsi que la vengeance de sa mère, la vieille sorcière. Écoutons cet air pour mezzo-soprano. Stride la vampa, c'est-à-dire la flamme crépite. Écoutons Shirley Verrett.
Encore un coup de tessu.
Thank you. scendiamo a me propingo e vive.
Tableau du bûcher et du supplice. Il ne manque plus que dans la salle l'âcre odeur du feu pour décrire ce terrible moment. La mélodie, là encore, est facile à retenir, bien que soigneusement inspirée, accolée à la voix de la grande mezzo-soprano. Pas d'effet de tourbillon de fumée romantique et fantastique, pas d'effet d'orchestre, non. Une simple chanson qui dit tout avec les mots adéquats et un ostinato rythmique. Verdi a rarement cédé à la mode du fantastique. Peut-être un peu avec Macbeth et Falstaff. En réalité, il préfère le naturalisme, l'expression directe, et jamais il ne suggère dans le flou artistique. Non, au contraire, il affirme avec autorité dans le réel. Son romantisme populaire, en réalité, est encore fortement imprégné du classicisme début du XIXe siècle. En somme, Verdi est plus proche de Beethoven que de Wagner. Et pendant ce temps, l'intrigue se déroule et le comte ne rêve que d'une chose, conquérir la belle Léonore, qui, elle, n'aime que le trouvère, son rival. Et en amoureux transi, presque désespéré, car il est éconduit, il le sait, Léonore même le déteste, eh bien, il nous confie ses sentiments. Encore plein d'espoir, il admire le sourire, le visage de Léonore, et il prie pour qu'un jour, elle l'aime à son tour. Et pour cela, il est prêt à toutes les manigances, tous les traquenards, toutes les compromissions. C'est dans un splendide air pour baryton qu'il nous conte ses tourments et son espérance. Espérance vaine. Un air d'une franche difficulté, dont il est construit comme une aria quasi-religieuse au début, avec voix grave et noble, puis avec une digression vers l'éros, vers la pulsation amoureuse romantique. Il baleine del suo sorriso, c'est-à-dire l'éclat de son sourire. Écoutons Piero Cappuccilli, merveilleux baryton.
Fulgor del suo bel viso. la tempesta
C'est dans ce genre d'air que l'on peut identifier clairement ce qu'est un baryton Verdi. C'est-à-dire un baryton qui a deux octaves dans la voix. Autrement dit, une voix très longue, partant du grave vers un vrai aigu, presque de ténor. Car la plupart des chanteurs barytons se débrouillent très bien dans leur carrière avec seulement une octave et demie, dans un répertoire moins exigeant que celui de Verdi. L'intrigue continue. Et que devient notre trouvère pendant ce temps? Eh bien, il vient d'apprendre que sa mère adoptive, Azucen, vient d'être arrêtée à son tour par les sbires du jeune comte d'Ilouna, et qu'elle aussi va être condamnée au bûcher, comme l'avait été sa propre mère, la vieille sorcière, qu'elle s'est jurée de venger. N'oublions pas qu'elle a kidnappé le fils cadet du vieux comte, c'est pour cela qu'elle est condamnée au bûcher. La fureur du trouvère éclate. Il sait, il sent depuis toujours qu'Azucen n'est pas sa vraie mère. Mais tout de même, elle l'a élevé comme son fils et il éprouve pour elle une grande reconnaissance à défaut d'un véritable amour. Aussitôt qu'il apprend la condamnation à mort d'Azucen, il se précipite à son secours et c'est l'occasion pour Verdi de nous livrer un air pour ténor des plus célèbres, mais aussi des plus périlleux. En effet, c'est un air guerrier plein de rythme et de violence auquel les ténors, pas toujours bien inspirés, ont rajouté une série d'aigus, une série de contrutes de poitrine des plus dangereux, mais qui sont d'un effet splendide quand ils sont réussis, et qui font depuis toujours partie de la tradition que l'on ne saurait ignorer. Sinon, gare au public connaisseur. C'est le fameux « di quella pira », c'est-à-dire « de cette flamme que je vais éteindre avec votre sang ». Écoutons « di quella pira » par Franco Bonisoli, avec qui j'ai eu la chance de partager des moments musicaux inoubliables, et qui a été le grand ténor verdien des années 1980-1990, qui est toujours en vie, qui donne toujours des cours. Écoutons Franco nous chanter « Di quella pira ».
Oh,
constater, c'est un air très aigu, avec les fameux contrutes rajoutés, est très vaillant, qui demande un grand contrôle de la respiration, car le tempo est rapide, et il faut prendre rapidement beaucoup de souffle pour ne pas s'étouffer, un peu comme un nageur de compétition. De surcroît, cet air est presque toujours bissé, car le public hurle et tape des pieds dans le théâtre comme pour un match de foot dans un stade. Il m'est même arrivé, une seule fois dans ma carrière, de le trisser, tant le public était insistant et obligeait une troisième version. Cela me permet d'ailleurs de vous conter une anecdote authentique à ce sujet. Après avoir bissé l'air, le public insistait. Et comme vous l'avez remarqué, à la fin de cet air, interviennent les choristes masculins qui ponctuent « Alarme, alarme, alarme !» Or, ces choristes sont habitués à bisser, certes, mais jamais à trisser. Et donc, une fois fini le bis, eh bien, ils ont regagné leur loge, car le tableau était fini et le rideau était tombé. Mais le public continuait de hurler et ne se levait pas pour aller à l'entracte. Alors, le ténor espagnol Ignacio Encinas est resté en scène et le tris demandé par le public s'est donc exécuté. Mais sans l'intervention du chœur, ils étaient déjà dans leur loge. Heureusement, bien sûr, il y a l'orchestre qui s'est rassis, qui était déjà en train de partir pour prendre l'entracte, bien sûr. L'orchestre s'est rassis et a pu jouer tout de même le morceau en entier. Voilà l'un de ces moments sur le vif qui sont de merveilleux souvenirs de carrière. Et maintenant, passons au dénouement. Le trouvère a été capturé par les sbires du comte, son propre frère. Il est condamné à la décapitation. Léonore s'est réfugiée dans un couvent. Elle tente désespérément de faire libérer le trouvère en promettant au comte de lui appartenir s'il gracie le prisonnier qu'elle aime. Le comte finit par accepter ce marché sordide, mais au moment où il essaiera d'étreindre Léonore, celle-ci boira le poison qu'elle avait caché dans sa bague. Elle aura juste la force de se traîner, mourante, jusqu'au pied de la prison. Le prisonnier n'échappera pas au bourreau, qui lui coupera la tête avec la hache. Et à ce moment, Azucen s'écriera « Je suis vengé ! Tu es damné pour l'éternité, car tu viens de tuer ton propre frère. » Mais avant cette scène finale, il y a un très grand moment musical. L'un de ces chefs-d'œuvre qui perdurent au panthéon de la grande musique, toutes catégories confondues. Léonora, désespérée, a entendu depuis son couvent, qui est proche de la prison, elle a entendu sonner le glas. Elle comprend qu'il s'agit de la future mise à mort du trouvère. Une messe des morts retentit dans le cloître de la prison. C'est le miserere, dernière prière pour les condamnés à mort. Le chœur des moines se fait entendre, lugubre et majestueux. La voix du trouvère se fait entendre aussi, depuis sa cellule, accompagné de son luth. Et Léonore répond de l'extérieur aux adieux de son bien-aimé. C'est un moment d'une qualité exceptionnelle, où le tragique de la situation est servi par une musique d'une inspiration magnifique, poignante, et d'un savoir-faire, musique à la fois savante et très compréhensible à saisir. Il y a trois pôles musicaux qui se répondent et se mêlent. Le cœur des moines, les adieux du trouvère, les sanglots désespérés, des réponses de Léonore. Trois lieux séparés dans l'espace, mais que la musique unit dans une sublime stéréophonie. Un enregistrement à la Scala de Milan en 1958 avec Maria Callas et le grand ténor australien Albert Lance, qui lui donne la réplique dans le Trouvère, est un témoignage inoubliable de ce chef-d'œuvre absolu. Pour ma part, un surcroît d'émotion, car Albert Lance, immense ténor, star des époques 70, est le premier ténor que j'ai eu l'honneur de diriger lors de mes toutes premières directions, encore élève du conservatoire. Figurez-vous que cette véritable star se prêtait volontiers à aider les débutants. Chapeau et merci. Par la suite, en fin de carrière, il s'est retiré à Nice où il a continué à enseigner le chant avec un dévouement de grand seigneur. Pour terminer cette émission et vous saluer, je vous invite avec Nancy à partager ce grand moment de Verdi. Écoutons religieusement Maria Callas et Albert Lance à la Scala en 1958, le Miserere du Trouvère de Verdi. Bonsoir.
Quando cadaver già fu